écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Du jeudi 4 au samedi 6 décembre, les radios de la Ferrarock se réunissent à Rennes pour la 29e édition du Festival des bars en trance. Une centaine d'artistes investiront des lieux emblématiques de Rennes, entre bars, théâtres, chapelles et la mythique salle de la cité. Pour vous en donner l'eau à la bouche et patienter jusqu'au coup d'envoi, retrouvez en fin d'émission Philippe Le Breton, programmateur de l'événement. D'ici là, place aux albums découvertes de la semaine. Arthur Fubandini sort le volume 2 de son mantra « Ça n'a jamais été mieux avant ». Ce second souffle prend de la hauteur sans jamais tomber, à la fois avec humour, dérision et gravité. C'est un des albums découvertes de la semaine, aux côtés de musique de stade par le trio breton Stade. Entre rock alternatif, garage et post-punk, musique de stade a tout d'un hymne et on le découvre tout de suite avec Aurélie de Fréquence Mutine.
Alors pour l'émission Dig Dig Diggers, on reçoit dans les studios de Fréquence Mutine à Brest le groupe Stade, idéal à un mois du mercato d'hiver. À nos micros, eh bien je suis avec Éloane Jéga qui s'occupe du chant dans le groupe Stade. Bonjour.
Salut.
Également Yann Olivier qui est lui à la basse.
Oui.
Ainsi que Baptiste Le Soulier qui est lui à la batterie.
Hello.
Alors on va commencer par les débuts de votre groupe. Comment est-ce que vous êtes rencontrés tous les trois?
Ça remonte à peu près à 2017, mais on se connaissait d'avant déjà.
Et oui, parce que vous étiez déjà dans des groupes avant. On va commencer peut-être par toi, Yann, puisque tu étais dans le The Craftsman Club, hein, qui a quand même bien roulé sa bosse dans les années 2000-2010. Et ensuite, tu as rejoint aussi The Thomas Howard Memorial. Et c'est là qu'on commence un petit peu à voir que vous vous connaissez, puisque Éloane t'y était aussi.
Oui, voilà, c'est ça. On a commencé avec Thomas Howard Memorial. Et puis ensuite, la liaison s'est faite avec, de l'autre côté, Baptiste, avec qui j'avais un autre groupe au même moment. Il y avait Thomas et puis il y avait aussi Elk Escape à Rennes. J'ai fait un peu la passerelle entre Yann et Baptiste, on va dire.
Et avant de commencer cette interview, Yann, tu me disais qu'il n'y avait rien à raconter tellement vous vous étiez rencontrés de manière facile et simple. Est-ce que tu peux m'expliquer ça?
C'est une relation simple. Ouais, ça s'est fait vraiment tout seul, en fait. Mais c'est un peu le mode de fonctionnement. Thomas Howard, c'était un peu pareil. On arrivait, on jouait et on jouait ensemble. Et c'était vraiment l'envie de jouer ensemble et sort ce qui sort. Et Thomas Howard, c'était vraiment ça. Chacun faisait ce qu'il voulait. Et Stade, c'est un petit peu ça aussi. Et...
tout en gardant le côté où on ne veut vraiment pas du tout se prendre la tête. On a un éditeur qui nous suit quand même. Il y a des choses à faire, on va dire des comptes à rendre, tout ça. Mais c'est vrai que c'est quand même parti de quelque chose d'assez spontané. Aussi, là où avec nos autres groupes, on était en label, où il y avait beaucoup de taf à côté, de promo. Enfin voilà, c'est quelque chose de très complet. Et là, avec Stade, on s'est juste dit, on veut juste jouer dans des troquets ou dans des plus grandes salles ou scènes d'extérieur. Mais voilà, il faut que ça reste spontané. Et puis, le kiff du concert qui dure trois quarts d'heure. Et puis, c'est tout. C'est vraiment le principal.
Et revenir à l'essentiel, se baser sur les amis et la musique.
Donc, vous êtes un groupe costa-mauricain et finistérien. Comment est-ce que vous définiriez votre musique?
Moi, je n'ai jamais les termes, en tout cas, pour les catégories de...
Il y a des gens qui se disent post-punk, hardcore,
ouais. Garage.
C'est pas garage.
Anarcho-syndicaliste.
C'est plutôt les influences qu'on aurait, ce serait At The Drive-In, Fugazi ou des trucs comme ça, quoi. Ça, ce serait un peu les influences. Maintenant, le style, on dit que Fugazi, c'est du hardcore, post-punk.
On fait du rock?
Ouais. Nous, on dit qu'on fait du rock.
Voilà.
Alternatif pour...
post-punk.
Comme ça. Ça prend large.
Du rock alternatif, post-punk, hardcore.
Est-ce que vous écoutez tous la même chose ou alors est-ce que chacun a un petit peu ses petites pépites préférées?
Je pense que c'est assez différent.
Je pense que moi, je suis le plus différent.
C'est toi le plus différent parce que toi, tu as un côté métal. Ouais, après, nous, on se rejoint pas mal sur plein de styles, je trouve. En fait, on écoute tous beaucoup de choses différentes et avec Stade, on se rejoint sur un certain style. Mais nous, on s'est juste dit avec Stade, il faut qu'on se marre et fait du rock et c'est comme ça que c'est sorti.
Parce que facilement, on irait écouter d'autres styles Moi, j'écoute jamais de rock, par exemple, bizarrement.
Ouais, bon, non plus, on écoute beaucoup de pop, en fait.
Ouais, c'est ça.
On a ça en commun, tout ce qui est pop, même électropop, un peu.
Complètement.
Ça serait quoi les groupes que vous écoutez là, en ce moment?
Bah moi, je vais
moi j'en ai pas vraiment.
Je vais voir Noga Erez ce week-end. Donc, moi, c'est Noga Erez à fond. Ça fait 5 ans que je l'écoute et je trouve que c'est une artiste de dingue. Mais ça n'a rien à voir avec le style de Stade.
Bah moi, j'ai eu gros coup de cœur sur Okalou depuis 4-5 ans. McGee, Dijon, enfin son comparse, toute cette mouvance de Marco. Enfin voilà, tous ces trucs un peu indés. Ouais, ça me parle bien.
Ouais, moi j'ai pas de, d'artiste en particulier, ça change tout le temps. J'aime bien changer suivant les humeurs.
Et donc pourquoi le nom Stade ?
C'est quand même classe de s'appeler Stade pour faire de la musique de stade, quoi. Voilà,
c'est pas trop long et ça sonne.
Ouais, ouais. Ça sonne, facile à retenir. Oui.
Et en parlant de musique de stade, Yann, toi quand tu étais dans The Craftsman Club, et ben il y a un de vos sons qui a résonné au Stade de France lors de la rencontre entre Rennes et Guingamp pour la finale de la Coupe de France.
Ouais, 2014 je crois. C'était le morceau Animals et je savais pas que ça allait résonner dans le Stade de France, je m'en souviens qu'à moitié, mais en tout cas, j'étais allé à ce match-là parce que avec des copains complètement par hasard et c'était assez chouette quoi, quand il lève la coupe. D'avoir la musique qui résonne comme ça, c'est pas mal.
Et vous vous y attendiez pas du tout ?
Ah non, on savait que ça passait dans le stade de Guingamp, parce que pendant un an, il le passait. Mais on savait pas que ça allait passer au Stade de France.
Et d'ailleurs, vous supportez quelle équipe de foot ? Parce que vous appelez stade quand même, vous devez aimer le foot.
Bah, venant de Brest, moi ce sera le Stade Brestois, évidemment.
Il faut que je réfléchisse encore, je sais pas.
Moi étant affilié à Guingamp, bah, ce serait Guingamp.
J'aime bien la Dordogne, donc il doit y avoir... certainement un petit village fort sympathique en Dordogne qui a une très belle équipe. Donc je dirais plutôt celle-ci.
D'accord. Ouais. Donc je suppose que tu regardes pas beaucoup le foot pour pas avoir d'équipe préf.
Non, effectivement.
moi
c'est toujours en équipe de France, tu Gary.
Ouais.
Moi, c'est Guingamp parce que j'aime bien l'histoire de Guingamp et quand même d'être toujours le plus petit, de réussir à se relever bon, et de retomber. Mais mine de rien, c'est quand même un bled de 8000 habitants. Donc c'est quand même assez classe sur ce coup-là quand même.
C'est vrai.
Et donc l'album sort le 25 novembre.
Et effectivement, et il s'appelle Musique de Stade. Parce que comment décrire l'album autrement que Musique de Stade ? Qu'est-ce que vous faites avec Stade ? Enfin, faites des musiques de Stade.
Ouais.
Est-ce que vous pourriez décrire un petit peu l'artwork pour les auditeurs et auditrices ? Parce que moi, je le trouve plutôt sympa.
Oh, trop cool. Alors, il est bleu et rose, quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais j'essaie de m'en rappeler. Et
il est vert. Non, il n'y a pas de vert.
Il y a un peu de vert aussi.
Non, y a
peu. Et en fait, il y a une phrase en anglais qui explique comment l'album a été fait. Donc, on dit que cet album, grosso modo, ça dit que cet album a été fait avec amour et passion pendant 8 ans, enregistré avec des SM58. Nous sommes heureux de vous présenter notre album Musique de Stade. Et puis, il faut quand même dire qu'il y a une petite coquille, parce qu'il faut l'assumer.
Une petite faute d'anglais, quoi.
Une petite faute, au lieu de mettre « off », un moment, on a mis faux, F-O au lieu de O-F. Vu que c'est la première édition, après il y aura d'autres éditions, bien entendu, vu que ça va se vendre comme des petits pains. La première édition, il y aura cette coquille, après elle ne sera plus là. Donc dites-vous qu'il coûtera très cher cet album. Donc achetez-le.
Eh ben, allez chez vos disquaires préférés, vous êtes aussi sur Bandcamp
Après, via Upton Park, l'éditeur, je pense qu'on sera sur Bandcamp.
Comment ça s'est passé, cette écriture d'album, justement ? Qui a fait quoi ?
Il faut savoir déjà qu'on a mis 8 ans pour 9 titres.
Oui.
Ça prend son temps.
En jour, on a mis 18 jours.
Ah oui, c'est ça. C'est 18 jours de compo enregistrement, mais étalé sur 8 ans. C'est quand même quelque chose. Et alors, qui faisait quoi ? Eh bien, ça se faisait sur le moment. C'est-à-dire que le matin, on composait vite fait 3 bricoles, gling, 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 3 accords. L'après-midi, je branchais des micros, donc c'était des SM58, ce qu'on a là, dans lesquels on parle.
On mangeait le midi.
On mangeait le midi.
Du midi, oui.
Petit sandwich. Et puis, vraiment, dans une petite carte son, des micros tout classiques. Et puis, on enregistrait comme ça, vraiment à l'arrache.
Le lendemain, on refaisait un peu une...
Du recalage, quoi. Non.
Du recalage ou de la structure, un petit peu.
Et en fait, au lieu de retourner en studio faire sa propre, on a tout gardé.
On a tout gardé pourri.
Puis j'ai remixé. Ça un peu mieux, quand même. J'ai un home studio à la maison où je fais du mixage et tout. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose qui était écoutable, en tout cas. Mais ça a été cool. C'était trop bien. Pour répondre à la question qui a fait quoi, en fait, on a tous fait plus ou moins en même temps la compo. Je crois que les paroles, je ne me suis pas trop embêté.
Ouais, il y a même un morceau où il n'y a que 3 mots. Mais...
Ouais. Keep it burning.
C'est lequel, déjà ?
C'est Keep it burning. C'est voilà, si vous cherchez les paroles de Keep It Burning, bah, c'est Keep It Burning, c'est voilà, tout, c'est... plein de fois.
Est-ce que ça a un sens particulier, ce Keep It Burning ?
Il devait y en avoir un au moment où j'ai écrit ça, mais je ne me rappelle plus. Je trouve que ça le fait bien pour du rock de stade, du coup, de, cette phrase, ça envoie, ça renvoie à plein de choses.
Et puis tout le monde peut le chanter à tue-tête. Ça se trouve, ça va passer à la prochaine finale de Coupe de France. Il faudrait Guingamp-Brest, du coup.
Ah, bien. Guingamp-Brest, Carl.
Pourquoi ça a été important pour vous d'aller voir des concerts dans les bars ? Est-ce que ça a pu vous forger une culture musicale, par exemple ?
Ouais, puis un état d'esprit aussi, je pense.
Ouais.
Alors, c'est vrai que depuis quelques années, moi, perso, je vais un peu moins voir les concerts dans les bars, mais à l'époque, ouais, c'était vraiment, quand j'habitais à Rennes, c'était vraiment la tradition.
C'était plus accessible, quoi.
C'était plus accessible, il y en avait peut-être plus. Je sais pas.
Est-ce qu'il y en avait plus ?
Moi, je sais que j'ai toujours été dans les troquets, toujours été voir des concerts, pareil. C'est vrai, depuis toujours, en fait. Mais si tu veux, de toute façon, avant, ça se passait dans les bars. Tu ne te faisais pas connaître sur Internet ou des trucs comme ça. Et c'est là qu'on te trouvait, quoi.
Puis il y a une atmosphère aussi. Il y a quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. J'avais dit ça cet été, on avait eu quelques dates, là on avait eu une dizaine de dates, et on a eu des scènes extérieures dans le festival, ou limite des semi-grosses scènes. J'étais là, oh là là, ça me fait à moitié peur. On est habitué à jouer dans les bars avec Stade, en fait, et c'est vraiment notre truc. Le public, il est à un mètre. Il y a une ambiance, même s'il y a 10 personnes, ça y va à fond. Là où dans des grandes salles, c'est pas la même chose. Et je trouve que...
Ou alors, il faudrait qu'elle soit blindée, quoi.
Ouais, voilà, il faudrait qu'elle soit archi-blindée avec une ambiance de folie. Mais je trouve que dans les bars, ça prend beaucoup plus facilement. Et franchement, des fois, je préfère largement... Puis on n'a pas ce côté gros stress non plus. En tout cas, le rock, ça marche trop, trop bien. Enfin, c'est fait pour ça, quoi.
Dans
les bistrots, on est tranquille.
C'est vrai que c'est plus détente, ouais.
Et on peut peut-être aborder le fait aussi que toi, Yann, t'as ouvert un café-concert à Ploie, donc dans les Côtes d'Armor, c'est tout au bout, au bord de la mer.
Ouais.
Ça s'appelle Le Barbe. Comment ça s'est passé?
Bah, ça se passe bien. Il y a des concerts toutes les semaines. En fait, j'avais toujours dit, quand j'arrêterais la musique, je ferais venir les musiciens chez moi dans un troquet. Sur le modèle d'un bar à Guingamp qui s'appelait Le Galopin, et de Fif, son patron qui est décédé maintenant. Et puis, ouais, c'est faire découvrir aux gens de Ploie qui... Enfin, ils sont pas très musiques, les gens à Ploie, en général. Après, il y en a quand même, mais... Et c'était faire découvrir des groupes qui n'iraient jamais voir, en fait. Ça aussi, le rôle d'un troquet qui fait des concerts, c'est faire découvrir même des styles que tu n'irais pas voir. Moi, j'ai pris des claques aux barbes, mais sur des styles que... Enfin, j'aimais bien, quoi, mais je pensais pas prendre des claques comme ça sur certains styles, quoi.
Et finalement, t'as ouvert un café-concert et t'as continué à faire de la musique.
Bah oui, oui, parce que en fait, moi, je me rends compte que ça manque aussi quand j'en fais pas. Donc, en fait, il faut réussir à trouver l'équilibre entre faire venir les groupes maintenant et aller faire des concerts aussi avec Stade, parce que j'ai plus que Stade pour l'instant. Mais oui, la musique, de toute façon, c'est dans le cœur.
Bon, on va peut-être parler de ça, justement. À quoi ça ressemble en live, Stade?
Guitare, basse, batterie.
Il y a Elouane qui a un micro, parce que nous, on n'en a pas, parce que si on parle, on dit des bêtises. Alors, quelquefois, j'arrive à parler sans le micro, mais Elouane, il me regarde, il dit « chut ». Souvent, tu dis ouais, des conneries. Quand même.
Bon, je dis pas « chut », je fais
« ouais ». Puis, au bout d'un moment, quand il me regarde longuement, j'arrête.
Ah si, Baptiste, à la batterie, il fait tourner les baguettes.
Est-ce que tu pourrais essayer de décrire au micro à quoi ça ressemble, ce tourner de baguettes?
Alors, en fait, il suffit de prendre la baguette entre l'index et le pouce et faire un mouvement de poignet de manière à faire une petite illusion d'optique. Et en fait, la baguette tourne vers l'arrière.
Il fait tourner les baguettes, mais il se donne aussi des coups de poing.
Oui, sur la tête.
Sur la tête, il fait comme ça.
Ça, c'est un petit tricks que j'ai pris de Mike Pornoy de Dream Theater.
Et un net truc, c'est que du coup, ben, tu es obligé de boire beaucoup d'eau.
Oui,
il boit beaucoup.
Exactement. Sinon, je me fais des tendinites.
C'est un métier un peu dangereux quand même, batteur.
Ah, tout à fait, ouais.
Surtout dans Stead.
Et oui, c'est très énergique.
Eh ben, merci beaucoup, Stade, d'être venu répondre à nos questions.
Merci, merci. Merci.
Arthur Fubandini a à la fois l'image d'une rockstar et la prose d'un poète. On se réjouit de la sortie du deuxième volume de « Ça n'a jamais été mieux avant » qui révèle un artiste à la fois dans l'air du temps et hors du temps. Écoute et interview par Julie de Canal B.
On est tous dans le même train, mais on n'a pas tous le même entrain.
Salut, c'est Julie de Canal B. Cette semaine, dans l'émission Dig Dig Diggers, la Ferrarock vous fait découvrir « Ça n'a jamais été mieux avant », nouvelle EP d'Arthur Fubandini, sortie le 21 novembre en autoproduction. On retrouve Arthur juste après un extrait de son dernier single « Ça va, ça va ». Bonne découverte.
D'autres qui prennent des coups de bâton. Il y en a qui laissent une cuillère en argent dans la bouche. D'autres ont à peine de quoi prendre une douche. Il y en a qui se plaignent juste pour une petite mouche. D'autres se battent juste pour une petite place. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Comment ça? Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Comment ça? Ça va, ça va. Droit dans le mur. On est tous dans le même train, mais on n'a pas tous le même entrain. On est tous sur la même planète, mais on n'a pas tous grandi sur le même terrain. Un cri d'amour, on sort les crocs. La cerise sort du ghetto. Plein d'amiante dans le gâteau. Retour de flamme, retour de flamme, retour de flamme, mais pas dans le dos. Si je lève le poing, c'est pour ceux qui se battent, ceux qu'on laisse mourir de faim. Si je lève le poing, c'est pour ces enfants qui naissent face à leur faim. Si je lève le poing, c'est pas un point d'interrogation. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Comment ça? Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Comment ça? Ça va, ça va. Droit dans le mur. On est tous dans le même train, mais on n'a pas tous le même entrain. On est tous sur la même planète, mais on n'a pas tous grandi sur le même terrain. Un point de départ ou un coup de point de départ. Un point final ou un coup de point final. À toi de savoir, tu me parles de profit ou de vie. À toi de savoir, tu me parles de mur ou d'amour. À toi de savoir, tu me parles de frontières, je te parle de nos frères. À toi de savoir, à toi de vouloir. Encore faut-il le pouvoir. Encore faut-il le pouvoir. Alors dis-moi si ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Comment ça? Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Comment ça? Ça va, ça va. Droit dans le mur.
Salut Arthur Fubandini, comment ça va?
Salut, bah ça va, content d'être là, content d'être à Rennes, c'est un plaisir, merci de me recevoir.
On vient d'écouter un extrait du morceau sorti le 5 novembre dernier, Ça va, ça va. Il a clairement un peu une note d'ironie, mais du coup, est-ce que tu mens quand tu dis que ça va?
Bah en fait, dans les paroles, c'est pas vraiment une question. Dans le refrain, je dis comment ça, ça va, ça va. Parce que c'est vrai que c'est un terme qu'on entend un peu tout le temps quand on commence à y faire attention, à y prêter un peu l'oreille. On l'entend à chaque coin de rue et c'est un peu un espèce de mécanisme de parole et d'échange avec les autres qui perd un petit peu de saveur et c'est réinventer, un petit peu revoir tout le paradigme de cette expression. Et moi dans les paroles c'est plutôt si on continue comme ça et qu'on prend pas en compte d'autres réalités sociales et qui nous entourent, ça va droit dans le mur. C'est pas vraiment une question. Et je le dis dans les paroles, je dis, si je lève le point, c'est pas un point d'interrogation.
C'était pas une référence au groupe PNL?
Non, je savais pas qu'ils ont un morceau comme ça.
Mais justement, pour les plus mélomanes qui nous écoutent, ouais. Ils ont sorti un titre qui s'appelle Oh là là, il y a 10 ans maintenant.
Ah ouais, okay.
Et donc ils font une critique de la société dedans ils disent, je mens si je dis que ça va.
Ok, j'apprécie, mais j'aime bien, je respecte PNL, hein.
Bah oui,
quand même. Ah ouais, hein.
J'ai pu lire que le rap, ça a été un peu une de tes portes d'entrée dans la musique. Est-ce que c'est un style qui aujourd'hui alimente encore ton écriture?
Ouais, toujours. Et surtout aussi au niveau rythmique, la façon de poser les mots sur les instrus, comment on découpe les espaces qui sont dessus, les rebonds. Et puis dans l'hybridation un petit peu de la musique aujourd'hui dans le paysage qui nous entoure, forcément, ça nous influence et ça, moi, ça m'inspire toujours, ouais.
Le titre de ton album, Ça n'a jamais été mieux avant.
Mm-hmm.
Est-ce que tu t'adresses à cette part de la société qui veut toujours nous faire croire que c'était mieux avant, que tout était mieux et que maintenant,
Ouais, il y a de ça, et puis aussi, c'est surtout, je m'adresse à ce point de vue-là où on a une tendance à peut-être tomber dans la mélancolie, mais finalement, c'est un temps qu'on connaît pas. Ou alors, c'est les anciens qui nous disent c'était mieux avant. Enfin, c'est pareil, c'est une expression qu'on entend beaucoup, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement? Surtout quand c'est des gens plus âgés ou qui ont déjà vécu des choses, qui disent ça à des plus jeunes. Je trouve qu'en fait, c'est justement une manière de leur montrer un mur au bout du tunnel, plutôt que de leur ouvrir les portes des possibles et de l'imaginaire. Et donc, il y a une espèce d'ironie aussi dans « ça n'a jamais été mieux avant », mais il y a aussi faire le pari de l'optimisme.
Est-ce que c'est pour ça aussi que tu as décidé de faire le projet en deux volumes? Parce que du coup, je le rappelle, le premier volume, est sorti début février de cette année, qui porte le même nom. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi du coup tu as séparé le projet en deux?
Je l'ai séparé en deux, c'est 2x7 titres. Les deux sont construits un petit peu en miroir, enfin de la même façon, c'est-à-dire que c'est comme des entonnoirs à l'envers, c'est un peu ce que je répète parce que c'est ce qui m'est venu en construisant ces deux volumes. Cependant, le premier, il démarre plutôt sur une introspection, un petit peu sur les fonds, sur les abysses, un petit peu intérieurs, pour s'ouvrir à l'autre. Il y a une espèce de chemin un peu d'ouverture aux autres, avec quelques remises en question et questionnements sur la société. Et le deuxième démarre beaucoup plus frontalement sur la dystopie un petit peu dans laquelle on tombe de plus en plus, et justement essayer aussi d'une certaine manière je re-questionne un petit peu l'absurdité des rapports qu'on voit à la télé, qu'on entend, tout l'état du monde en fait, et la course comme ça, la soif de pouvoir, la soif d'argent, la soif de contrôler, de toujours prendre plus d'espace, d'endiguer les gens dans une espèce de salariat, enfin... Ça démarre là-dessus, et pareil, pour essayer de le déconstruire à ma manière, et puis en fait, c'est un questionnement, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est cette prise de parole-là pour essayer d'interpeller, d'ouvrir des débats avec les autres, et ensuite, encore une fois, de proposer quelque chose, de le transcender, et de se libérer en fait de ce schéma social et systémique.
Pour parler un peu plus de ces thématiques, on va écouter un extrait de Anesthésie Générale.
Le métro sonne, les portes se ferment. Un espace-temps s'offre à nous. Mais déjà des écrans nous gouvernent. Tu me diras, on est déjà au fond d'un trou. Au bout du tunnel, que des lumières bleues. On ne sait plus ce que veut dire la vie est belle. On ne se regarde plus dans les yeux. Oreilles bouchées, tête baissée, oh c'est mortel. Anesthésie générale. Je n'ai plus rien, j'ai déjà demandé à Dieu. Il passe son chemin, continue son refrain. C'est triste, mais pour lui, je n'ai rien.
Le morceau Anesthésie Générale d'Arthur Fubandini. Pourquoi est-ce que les gens sont endormis et pourquoi ils devraient se réveiller pour toi?
Alors, je dis pas que les gens sont endormis. Hein. C'est quand je dis Anesthésie Générale et que je me prends aussi en compte. Enfin, c'est toujours une interrogation. Moi, c'est venu d'une observation quand je prends le métro à Paris. Je pense que tout le monde le constate, même si on fait tous la même chose, on voit de plus en plus de têtes baissées sur les téléphones, complètement dans leur bulle. Il y a une espèce d'individualisme qui est généré par ces écrans-là, même si sur ces écrans on a accès à tout. Je trouve qu'on perd un lien social, on perd un regard, on perd les regards, on perd ce hasard en fait, un peu des rencontres. Il y a une espèce de peur ambiante qui est générée par toutes les images qu'on voit, par tout ce qui nous dépasse en fait et qui se cumule, qui est un trop-plein. Alors que parfois, c'est vrai que finalement dans la réalité et dans le contact direct avec les gens, on peut aller trouver peut-être des solutions plus directes, qui vont faire appel à nos émotions, à nos sentiments et à l'échange en fait et éviter la peur de l'inconnu.
pour accompagner un peu ces propos assez engageants, je vois que tu as décidé d'utiliser une instrumentale reggae dub. Mmh. Et du coup, ça, c'est pas forcément un choix très anodin parce que c'est une musique qui porte une voix, une identité culturelle, celle de la Jamaïque. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi aujourd'hui, en tant qu'artiste, tu as décidé de faire ce choix ?
Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'écoute beaucoup de dub, de reggae. Je m'intéresse aussi pas mal au sound system, en fait, qui sont arrivés de la Jamaïque en Angleterre. Et en fait, en regardant leur histoire, on se rend compte que c'est une musique qui a pu créer des passerelles, qui a créé des ponts entre deux pays, déjà dans un premier temps, et qui revendique, en fait, c'est des gens qui revendiquent leurs droits, qui revendiquent leur identité. Et pour moi, c'est une musique sur laquelle il faut vraiment se pencher sur les paroles ou ce qu'on dit, parce qu'elle est déjà lourde de sens et pleine de sens, en fait, cette musique dub et reggae. Donc, c'est une façon de faire aussi un clin d'œil, et moi, ça me nourrit, ça m'inspire beaucoup, en fait, tous ces mouvements-là. Et aussi les sons de système, quand ils sont arrivés, j'aime bien cette idée d'être au même niveau que tout le monde, c'est-à-dire que les sons de système, ils sont au sol, on partage tous la même chose sur le moment, et c'est une équipe, il y a un crew derrière le son de système, et c'est très vivant avec les toasters qui prennent la parole librement, qui sont pas dépendants d'une structure en particulier, il y a un côté instinctif et assez revendicatif qui fait du bien.
Sur cet aspect revendicatif, est-ce que en dehors de projet musical, est-ce que tu as aussi des engagements plus personnels ? Est-ce que tu vas agir, par exemple, je sais pas, du point de vue associatif ou des choses comme ça ?
Non, ça j'avoue pas encore. J'ai envie de le faire. Ça fait un moment que j'y pense, je l'ai toujours pas fait. Donc voilà, on a tous des chemins à faire et un moment de l'engagement qui doit prendre un peu plus racine. Après, c'est vrai qu'en ce moment, je peux pas faire autrement que de parler de ce qui nous entoure. Parce que c'est tellement absurde, il y a tellement de choses qui sont mises en face de nous et on dit rien, on laisse passer beaucoup de choses. Donc moi déjà j'essaie de prendre la parole avec la musique, ce que je fais tous les jours, je me donne à ça tous les jours. Donc essayer de diffuser en fait des questionnements et des prises de parole en fait. Pour moi, surtout aujourd'hui, je pense que c'est nécessaire un petit peu de mettre ça en commun en fait.
La culture sound system, est-ce que c'est une culture à laquelle tu as déjà participé, tu t'es déjà rendu à des événements ou même tu as déjà organisé ce genre d'événements ?
Non, j'ai pas participé totalement à des soirées dub, sound system, etc. Mais là en ce moment je m'intéresse, j'ai envie de le faire. J'ai mon petit rêve de créer un petit sound system avec quelqu'un, pouvoir faire des concerts un peu sauvages aussi. Pour que ce soit accessible, pour pouvoir aussi pareil partager des idées, des énergies en fait, des dynamiques. Donc ça va venir là.
Est-ce que c'est pour ça aussi que ton projet il est en autoproduction ? C'est pour un peu se décentraliser d'une grande structure ou...
Bah c'est la réalité aussi des choses. Je pense que un projet comme le mien, il peut faire en sorte que des partenaires potentiels peuvent être assez frileux. Parce qu'il y a un côté qui est pas mainstream, et moi il y a un chemin, en fait je fais de la musique depuis que je suis petit, et assez vite je me suis fixé une espèce de quête, un petit peu de recherche, même si elle peut évoluer, changer, même si elle est abstraite, je sens en moi une espèce de ligne en fait de recherche que j'ai envie d'approfondir, et je me sentirais mal en fait de faire un pas de côté et de faire trop de compromis. C'est comme travailler l'image d'une certaine façon, moi quand ça devient trop marketé en un sens, et que je sens un produit plus qu'une personne, ça commence à me déranger et je trouve que ça crée une distance entre la musique et la personne et le public en fait. Même moi en tant que public d'artiste, quand je sens quelque chose de trop lissé, trop passé à la javel, tout de suite ça va me déranger en fait. Ça aseptise en fait le propos et ça en fait c'est du marketing, c'est du commerce, c'est du business. Et je pense pas que la musique soit faite pour ça au départ.
Ce serait quoi la différence entre venir parler de son projet musical à la radio, en tant que défendre une idée, et le vendre en tant que projet ?
Bah, le vendre, pour moi, c'est le diffuser. Et en fait, ça dépend ce qui est dit dans les textes, les propos qui sont abordés, et la façon dont c'est fait. Moi, je tiens à un maximum. En tout cas, on est obligé un minimum de jouer un certain jeu, surtout quand on débute un projet, parce qu'on est obligé de donner un peu de visibilité, de faire écouter, de faire découvrir son projet. Et donc, en fait, j'essaie, en tout cas, de faire en sorte que ça reste le plus artistique possible, que ce soit au niveau des visuels ou des vidéos, et le plus brut possible aussi. J'ai pas envie de raconter des histoires, de romancer les choses. J'aime bien, moi, dans les artistes dont je m'inspire et que j'écoute, j'ai l'impression de les sentir tels qu'ils sont tous les jours, en fait. Ils sont pas en train de se mettre en scène, ou alors s'ils se mettent en scène, c'est pour servir un propos, pour prolonger leur morceau, leur musique. Et moi, c'est ça que je cherche. Et à un moment, bah, faut bien vivre, faut bien pouvoir produire encore plus derrière de la musique. Donc, faut trouver son système économique et en même temps réaliste, sans profiter de la crédulité des gens, sans vendre un produit, sans raconter d'histoire, en fait.
Une dernière question, ouais. Et après celle-ci, on écoutera nos cœurs font du free jazz. Et à la rédac, du coup, on n'a pas pu s'empêcher de voir des vestiges du punk rock des années 1970, notamment le titre Career Opportunities des Clash. Est-ce que pour toi, il y a un sens à ce retour sur la scène musicale de ce genre de punk rock qui va dénoncer?
Bah oui, quand on voit... Nous, je parle en France déjà, mais on est assez privilégié de vivre en France, mais on voit quand même une montée du fascisme, on voit un État de plus en plus autoritaire, on voit l'impunité des hommes politiques, alors qu'ils ont tous des trucs, des casseroles, que ce soit Darmanin, qui a pour agression sexuelle, il est là, il va voir Sarko dans sa petite cellule, il va sortir bientôt. Il y a un problème, en fait, il y a une espèce d'hypocrisie ambiante d'une société un peu bourgeoise, qui alimente la peur, en fait, et donc en fait qui essaie de tenir les esprits par la peur, et donc maintenant ils font ce qu'ils veulent, en fait. Donc forcément il y a un retour à cette énergie un peu plus punk qui veut prendre la parole, qui veut casser les cases dans lesquelles on essaie de les mettre. On voit Trump, ce qu'il fait avec les antifas, maintenant il les fait passer pour des terroristes. Ici, en France, il y a une espèce de calque un peu de ce qui se passe aux États-Unis, mais avec des mois de décalage, mais c'est quand même assez flippant, l'idiocratie dans laquelle on essaie de nous plonger. Pour moi, l'IA participe à ça, la désinformation. Enfin, ça, en fait, ça endort un petit peu, ça endort les esprits, ça enlève des réactions un petit peu plus instinctives. Et je trouve ça dommage. Après, on espère qu'il y aura un maire un peu comme il se passe à New York. Ça fait du bien qu'il y ait des prises de parole qui voient le jour comme ça, qui remontent un peu à la surface, parce qu'ils essaient de diaboliser tout mouvement qui aspire à plus de liberté, en fait, des individus et donc du coup de la société.
Merci Arthur Fubandini. Je le rappelle, ton nouvel EP « Ça n'a jamais été mieux avant » volume 2 est sorti le 21 novembre en autoproduction et on te retrouve en concert.
Ouais. Je fais une fête un peu pour fêter justement les deux volumes qui sont sortis. Il y aura les vinyles, etc. au Point Éphémère le 16 janvier à Paris.
Très bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Ça n'a jamais été mieux avant. 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 Ça n'a jamais été mieux.
plus que quelques jours avant la 29e édition du Festival des Barons Trans qui aura lieu du 4 au 6 décembre à Rennes. Xavier de la Ferraroc reçoit son programmateur Philippe Le Breton pour un tour d'horizon de cet événement qui perpétue la tradition des cafés-concerts au lieu de l'émergence musicale.
Bonjour Philippe.
Bonjour Xavier.
Les Barons Trans ont lieu en parallèle des Rencontres Transmusicales, festival emblématique dans la filière des musiques actuelles, mais aussi dans la vie culturelle rennaise depuis sa création en 1979. L'événement est associatif, mais fait partie du patrimoine de la ville à tel point que le nom, la marque Rencontres Transmusicales, appartient à la ville de Rennes. Qu'est-ce que sont les Barons Trans par rapport aux Transmusicales? Un cousin? Un frère? Un off? Un festival parallèle?
Eh ben, je dirais un festival dans le festival. Nous, c'est un peu notre grande sœur, on est le petit frère. C'est même un événement qui a été créé à la base, ça portait un autre nom, par les Transmusicales. C'est qu'on portait cet événement qui était dans des bistrots qui s'appelait les Apérotrans, dans les années 80. Et petit à petit, les Transmusicales avaient même un programmateur qui était intégré au Transmusical, qui programmait des groupes de 18h à 20h. Et tout ça était autour de la salle de la Cité et autour de la place des Lys, rue Saint-Malo, rue Saint-Michel, etc. Et fin des années 80, début des années 90, il y a une association qui s'appelait Bistrock Café, qui était une association qui avait un agenda de concerts, qui regroupait entre 30 et 40 cafés-concerts à l'époque, c'est ce qui existait à Rennes. Et donc il y avait l'agenda des concerts et eux ont commencé à s'occuper de cet événement-là. Alors c'est passé par plusieurs assos et le nom a commencé à s'affirmer Barons Trans à cette époque-là. En collaboration avec les Transmusicales. Et nous, Barons Trans, nous l'avons récupéré avec Michel Gilles, qui était le programmateur de l'époque. On a l'association Trois Petits Tours qui gère toujours Barons Trans aujourd'hui. On est devenu producteur avec Michel Gilles et Yann Hamon à partir de 96. Et puis moi, je suis arrivé dans cette histoire en 99 en tant que chargé de com. Et aujourd'hui, on travaille une programmation depuis 2003.
Et quelques années plus tard, une particularité du festival est que, contrairement aux Transmusicales qui ont lieu pour ce qui est de son espace principal au Parc des Expositions, en dehors de la ville, il se passe en centre-ville. Qu'est-ce que ça crée comme complémentarité?
Je pense que moi, qui étais un aficionados des Transmusicales, j'aimais bien aller découvrir des choses à la fois aux Libertés, dans des bistrots, et puis au Parc Expo. Je pense que aujourd'hui le Rennais, moi j'aime bien dire le Rennais est en transe, et Rennes est en transe, et donc il aime bien les picorer à droite et à gauche. La complémentarité, c'est que beaucoup de choses sont des découvertes internationales du côté des Transmusicales, et nous on a vraiment un pendant avec une ligne artistique plutôt la découverte francophone. On accueille des Québécois, des Suisses, des Belges, et puis beaucoup de Français en fait. Vraiment, c'est de la nouvelle génération de la chanson, de la musique électro, du rap, voilà. Donc on est encore à un début d'histoire, peut-être avec des projets qui sont encore plus jeunes que ceux qui passent au Transmusicales.
Et dans son articulation, les Barons Trans se déploient à présent dans 12 lieux. 8 bars, l'Amrock, Bloom Pop, la Cavale, Désordre, la Place, Tête de Chou, le Penny Lane et le Tiana. Dans 2 salles assises, la salle du conservatoire et le théâtre de la Parcheminerie, et 2 salles de concert, le 360 et la mythique salle de la Cité. Comment est pensée cette répartition? Est-ce que ce sont plusieurs soirées qui ont lieu en parallèle ou est-ce que c'est une invitation à faire un parcours?
Alors, on invite les gens à faire un parcours, mais c'est vrai que les horaires font que tout est un peu en parallèle. Donc, c'est comme une douzaine de mini-festivals. Parce que chaque lieu a une programmation assez spécifique qui correspond un peu à son identité, à son esthétique, à déjà des fréquentations. On essaie de travailler avec des bistrots qui, comme le Penny Lane ou l'Amrock, qui font déjà une programmation à l'année. On essaye de correspondre à ça. Et puis, arriver à la salle de la Cité, c'est un peu un festival encore dans le festival, parce que la salle de la Cité, en fait, à la base, c'était pas une volonté de notre part de l'utiliser. C'est la ville de Rennes qui nous a sollicité. On travaillait sur le vieux Saint-Étienne et pour pouvoir faire vivre cette fameuse salle mythique de la salle de la Cité pendant la période des Transmusicales. Après, un professionnel peut aller picorer de lieu en lieu. Nous, le seul pass qu'on peut pour picorer, c'est le pass de la salle de la cité qui permet d'aller sur les 3 jours. Mais on invite les gens à acheter, à décider un peu à l'avance, voire de venir devant une demi-heure avant, parce qu'on a toujours des places pour pouvoir aller voir des groupes. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'aller de salle en salle.
Bon, si on parle de ce qui se passe maintenant dans la programmation du festival, tu évoquais cette scène francophone. Le festival Bar en Transe déniche régulièrement les nouvelles stars de la musique actuelle. On pense à Eddie Depreto, Roméo Elvis, Jeanne Haddad, Angèle, Big Flo et Oli, et bien d'autres qui sont passés par les Bar en Transe avant de se faire connaître. Sur la centaine de propositions de cette année, quelle est la future révélation qui se fera connaître du grand public selon toi ?
Ouh là 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 là, tu vois, il y avait Louisa l'année dernière. Par exemple, tu vois, j'aurais pas pu te dire il y a un an que Louisa allait avoir un tube l'année suivante, l'été. Je sais pas, moi je crois beaucoup à trois demoiselles. Je crois à Elma Reichmann. On fait d'ailleurs cette année la création, comme on avait fait l'an dernier à la chapelle du conservatoire, qui sera debout et pas assise. Pour le coup,
okay.
Voilà, elle sera là tous les soirs, avec le premier soir avec Benny en première partie, le deuxième soir Elise Bourne et Jo La Panique, donc ça sera une programmation 100% féminine, et Alma Dreschman, c'est vraiment un coup de cœur de cette année.
Dans ma maison, il y a, oui, dans ma maison, il y a, oui, il y a des coins jolis et des chambres mal rangées. Il y a, oui, des murs pourris et puis la vaisselle cassée.
Alors je te propose maintenant qu'on parle des esthétiques musicales qu'on peut entendre dans cette édition des Bars en Transe. Quelle est l'esthétique la plus représentée ?
Alors je sais pas, parce que du coup on a vraiment de tout. Je dirais qu'il y a pas la plus représentée, mais qui revient vraiment dans l'air du temps. Je trouve que c'est la chanson rock. Voilà, on a connu beaucoup de groupes de rock dans les années 80, 90 qui chantaient en français. Et puis après, on a eu toute cette génération plutôt garage qui faisait du rock mais qui chantait en anglais. Et là, on a quelques projets, d'ailleurs qui seront Penny Lane, comme La Flemme ou Cœur à l'Index. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un renouveau.
quand on pense festival de musique, notamment, on a l'image de l'été, de l'extérieur. C'est à quoi de spécifique d'organiser un festival l'hiver ?
Moi, j'ai toujours connu ça, les concerts l'hiver dans des bistrots à Rennes. C'est ce sentiment de pouvoir être dans un pub et de voir un nouveau groupe. Voilà, j'ai vraiment cette culture du club à l'anglaise, ce qui s'est passé pendant des années à Rennes, hein, du café-concert, et que c'est un peu ce qu'on veut continuer à perpétuer.
Depuis quelques temps, et particulièrement récemment, le secteur culturel fait face à un désengagement de certains partenaires publics. Est-ce que vous êtes concerné par cette situation et quelles conséquences ça a pour vous ?
On avait encore une petite enveloppe du Conseil général. Donc c'est beaucoup les départements, les régions et certaines villes qui ont coupé ces subs. Bah, c'est pas difficile, hein, nous, l'impact de 5000 euros en moins. C'est tout simplement ce que coûte 2 jours de concert dans un bar. En payant tout le monde, en payant la technique, en payant les techniciens, en payant la bouffe, en payant les musiciens. Voilà, c'est qu'un bar en moins. Mais on a quand même la chance, nous, d'être beaucoup soutenus par, on va dire, la ville de Rennes, mais aussi ce qu'on appelle dans notre filière les organismes pro. Donc ça va être le CNM, PADAMI, la SACEM. Et la SACEM nous donne de plus en plus un bon coup de main, et parce que on a un festival qui défend l'émergence, et puis on a un festival précaire. On fait ça avec moins de 300 000 euros. On n'est pas un festival qui gagne de l'argent. On est là pour... On en a perdu à la sortie du Covid. On essaye de récupérer ce déficit. Et on est surtout là pour représenter des jeunes artistes et faire plaisir aussi aux Rennais.
Merci à toi et rendez-vous la semaine prochaine à Rennes, te concernant, et sur les antennes des radios de la Ferra Rock pour les bars en transe du 4 au 6 décembre.
Eh ben merci la Ferra, à bientôt.
Never mind.
Are you on the newsover?
From sitdown.com. Next day shipping, cause we don't have long. It fits in the bunker, it's meant to be. Right by the minibar, next to the TV.
C'était Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferra Rock. Du jeudi 4 au samedi 6 décembre 2025, retrouvez les radios de la Ferrarock en direct de 17h à 19h pour le marathon du Festival des Bars en Trance avec, entre autres, Anicone Deschênes, Double Vitrage, Adult, DVD et tout plein d'autres artistes à découvrir pendant 3 jours de festival à Rennes. Toutes les infos et la programmation sur www.barentrance.com. Le 21 novembre 2025 sortait Musique de Stade par Stade via le label Hampton Park ainsi que Ça n'a jamais été mieux avant volume 2 par Arthur Fubandini sorti en autoproduction. C'était les deux albums soutenus par les radios de la Ferrarock cette semaine qui vous étaient présentés dans ce magazine dédié aux découvertes musicales et que vous pouvez retrouver sur www.ferrarock.org.